autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec des étoiles plein la tête pour cette émission spéciale résultat de notre jeu concours autour de la question pourquoi viser la Lune? Qui va remporter la lunette astronomique mise en jeu? Encore quelques minutes de suspense qui me permettent de remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé, qui ont osé nous demander la Lune. Vos textes sont tous plus inspirants et émouvants les uns que les autres, comme vous allez pouvoir d'ailleurs en juger sur pièce. Nous récompenserons les meilleurs, mais le choix a été rude pour notre jury, composé de l'équipe de l'émission et des astronomes, planétologues et astrophysiciens de l'opération On the Moon Again, qui invite tous les possesseurs de télescopes et de lunettes astronomiques à sortir leurs instruments dans la rue, sur tous les continents, les 12 et 13 juillet prochains pour observer la Lune. Alors pour partager ce moment astronomique, nous sommes en direct avec les planétologues Sylvain Boulet et David Baratou. Dans quelques instants, nous allons joindre par téléphone le grand gagnant, celui qui remportera la lunette astronomique autour de la question « Pourquoi viser la Lune depuis la Terre ?» Bienvenue. Bonjour Sylvain Boulet.
Bonjour Caroline.
Bonjour David Baratou.
Bonjour Caroline.
Merci à vous deux d'être en direct avec nous pour partager donc votre passion et votre engagement en cette année lunaire, oui, pour mettre l'astronomie à la portée de tous, sur tous les continents, avec cette opération On the Moon Again, on va y venir. Sylvain Boulet, vous êtes planétologue au laboratoire Géosciences de l'Université Paris-Sud, spécialiste entre autres de l'étude de la surface de Mars, mais aussi de l'impact des météorites. Vous êtes également vice-président de l'association Uranoscope de France et à ce titre très investi dans le développement de l'astronomie dans les pays en développement. David Baratou, vous êtes géologue et planétologue au laboratoire de géosciences environnement de l'Université de Toulouse où vous travaillez sur l'évolution des planètes. Vous êtes très impliqué dans la formation et la recherche au Sud. Vous revenez de Dakar au Sénégal où vous avez été détaché pendant plusieurs années comme chercheur à l'IRD à l'IFAN, à l'Institut fondamental d'Afrique noire, pour former les jeunes chercheurs du continent à la planétologie. On peut aussi saluer via nos ondes l'astrophysicien Jean-Philippe Usan et l'astronome Sébastien Vauclair, membre du jury, qui ont eu avec nous la difficile et formidable tâche de choisir le et les lauréats et lauréates de notre concours « Pourquoi viser la Lune ?» avant de découvrir sur nos ondes le gagnant de la lunette astronomique. Je disais que le choix avait été difficile. Qu'avez-vous pensé? Quelle a été votre réaction à tous les deux à la lecture de ces textes, de ces témoignages, parfois de ces poèmes? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qui veut ouvrir le bal? David Baratou?
Je crois que c'est d'abord beaucoup d'émotions quand j'ai commencé à recevoir les premiers textes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a été effectivement très touchant de voir ces textes très vrais et très sincères. Et puis ensuite, s'apercevoir que dans ces textes, il y avait beaucoup de choses. On y retrouve le rôle que joue la Lune dans la vie quotidienne de ces personnes qui ont témoigné. On y retrouve l'intérêt scientifique, le questionnement autour de la forme des phases de la Lune, ce qu'on y voit. On y retrouve l'intérêt aussi de la Lune qui prend source parfois et très souvent dans l'enfance, dans l'adolescence. Et tout ça, ça a été vraiment très très riche pour moi de découvrir ces textes. Et on va le faire ensemble aujourd'hui, ça va être formidable.
On va le faire ensemble, Sylvain Boulet. Qu'est-ce qui vous a frappé, touché?
Beaucoup d'émotions aussi. En fait, c'est vraiment l'universalité de la Lune qui m'a... Voilà, on arrive avec des dizaines de textes qui nous montrent que la Lune est observée par tout le monde. Ce lien avec la Lune que tout le monde a et qu'on perd finalement un petit peu, c'est ça qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de tous les pays là qui nous montrent que finalement la Lune marque la vie de personnes. Et finalement, voilà, tous les jours, on l'a au-dessus de nos têtes. Et finalement, voilà, elle est comme ça, sans rien dire. Et elle est là. Donc il faut en prendre en compte et il faut l'observer.
Il faut l'observer sans plus attendre. Je propose d'écouter donc le texte qui nous a le plus inspiré, on va dire. Il nous vient de Lomé au Togo. On fait encore durer un peu le suspense. Je vous propose de l'écouter d'abord avant de joindre son auteur par téléphone.
Ma plus belle expérience autour de la Lune est celle qui m'a ouvert les portes de l'astronomie. C'était en décembre 2008. À l'époque, j'étais en classe de 4e. J'avais commencé à m'intéresser à l'observation de la Lune pour essayer de distinguer clairement ses phases et la durée de chacune d'elles. Un soir, aux environs de 18h, levant les yeux, je vis un fin croissant de Lune, mais il n'était pas comme ce que j'avais déjà vu. Celui-ci était au milieu de deux autres astres que j'avais pris pour des étoiles. Le spectacle était trop beau. C'est bien plus tard que j'ai su que mes deux étoiles étaient en réalité des planètes, Jupiter et Vénus, et que c'était une conjonction que j'avais observée. C'est de cette soirée qu'est parti mon amour pour l'astronomie. Un croissant de lune m'a ouvert les portes du ciel.
Un croissant de lune vous a ouvert les portes du ciel. Bonjour Christian Gbaba.
Bonjour Caroline.
C'est vous, bravo, hein, c'est vous le grand gagnant de notre jeu concours Pourquoi viser la Lune, vous qui allez donc recevoir cette lunette astronomique que David Baratou à ma gauche nous a apportée depuis Toulouse. Vous êtes étudiant en géologie à l'université de Lomé au Togo, vous avez 23 ans et une passion pour l'astronomie que vous avez envie de partager, Christian.
Oui, effectivement. Comme je l'ai dit dans le texte, mon amour pour l'astronomie est venu de cette soirée-là, c'était en décembre 2008.
Et vous pouvez partager la géologie que vous étudiez à l'université, vous la faites partager, et vous m'avez dit au téléphone, hein, juste avant cette émission, quand je vous ai annoncé que c'était vous qui étiez lauréat, que ça tombait bien. Pourquoi ça tombe bien, Christian Gbaba?
Oui, ça tombe bien, parce que je m'étais inscrit sur le site de l'événement On the Moon Again,
Oui.
Et après, je me demandais pourquoi je l'avais fait, puisque je n'avais pas d'instrument. Mais après, je ne m'intéresse plus à l'événement, puisque bon, je n'avais pas d'instrument. Et je crois que c'était le 18 avril, non, que le concours était lancé, c'est ça, non?
Absolument.
Oui, voilà. Le 19, j'ai écouté le spot mystère. Je me suis dit, ah, maintenant ou jamais, parce que je voulais vraiment participer à cet événement et profiter pour commencer... Le partage de ma passion pour l'astronomie, voilà.
C'est ça, partager, ça tombe bien, parce que vous vous êtes engagé, hein, du coup. Christian Gbaba, elle a partagé cette lunette, notamment dans le cadre donc, de cette opération internationale On the Moon Again, les 12 et 13 juillet prochains. Vous avez d'ailleurs un des premiers hein, à nous écrire, à nous envoyer ce texte. Vous allez recevoir d'ici là votre lunette, et vous allez la sortir dans la rue, à Lomé. Où est-ce que vous comptez partager cette lunette astronomique pour partager un moment d'observation de la Lune avec vos voisins?
Oui, ça sera Lomé les 12 et 13 juillet, comme c'est prévu, peut-être dans les rues de Lomé. Bon, après nous allons voir comment nous allons nous organiser. Mais ça ne sera pas... Au cours du mois de juillet, je crois qu'il y a une éclipse partielle de Lune le 16 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, elle va encore sortir le 16.
Eh bien, vous allez donc partager. Alors, vous êtes aussi étudiant en géologie, Christian Gbaba. Nous avons sur ce plateau un géologue, un planétologue, David Baratou. Vous-même, vous êtes, hein, David Baratou, géologue et planétologue. Un conseil, peut-être, ou une question à notre lauréat, Christian Gbaba, qui est étudiant en géologie à Lomé.
Bah, son parcours, moi, il fait écho, effectivement, à ce que j'ai vécu quand j'étais un peu plus jeune. C'est... passionné par la géologie, passionné par l'astronomie, on finit planétologue. Alors peut-être, je ne sais pas, est-ce que Christian, c'est quelque chose qui vous attire aussi, l'étude des planètes, et de mettre un petit peu ce que vous avez comme ce que vous apprenez en ce moment comme compétence dans la géologie à l'université, peut-être s'intéresser un jour à l'histoire de la géologie de la planète Mars, de la Lune évidemment, ou de Mercure, de toutes les planètes sur lesquelles on a des données actuellement avec toutes les missions spatiales et sur lesquelles vous pourriez peut-être travailler un jour. Je sais que ça peut être pas facile, mais moi j'ai envie de vous encourager et puis bien sûr de rester en contact si on peut vous aider à trouver, à ouvrir des portes pour aller dans cette direction-là.
Ça vous dirait, Christian?
Oui, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la géologie après le bac. En fait, j'avais décidé de faire la géologie depuis la quatrième. En première, j'avais découvert la planétologie, donc je m'étais décidé à faire la géologie. Je me disais que ça, comme il a dit, ça ne va pas être facile, mais bon, en tout cas, la géologie a plusieurs débouchés, mais la planétologie, en tout cas, c'est un rêve.
On verra. En tout cas, on va rester hein, en contact, évidemment. Et puis, cette lunette qu'on va vous faire parvenir va nous permettre aussi de rester en contact. On va vous la faire parvenir à Lomé, au Togo. On compte sur vous, hein, on l'a dit, pour partager aussi en photo avec nous sur les réseaux sociaux tous ces moments astronomiques que vous vivrez et que vous ferez vivre autour de vous à vos voisins à Lomé. En attendant, En attendant, je vous salue bien bas, je vous dis encore un grand bravo, Christian Gbaba, et je vous et je vous offre un petit cadeau musical de circonstance qui nous emmène déjà dans la Lune. Départ pour la Lune, morceau extrait du premier album de la formidable griotte malienne, Djeli Tapa, sur RFI. Pour Lune avec Djeli Tapa sur RFI, c'est cadeau aujourd'hui. Autour de la question pourquoi viser la Lune, cadeau à tous ceux qui ont participé à ce jeu concours. Parmi les témoignages les plus inspirants que vous nous avez envoyés, chers amis auditeurs et auditrices, depuis le continent africain, il y en a beaucoup qui nous renvoient à des légendes autour de la Lune, symbole féminin ou avec son bébé attaché dans le dos. Ça c'est par exemple Virginie Mfegué, chercheuse camerounaise installée en Côte d'Ivoire à Abidjan dans le quartier de Cocody qui se rappelle.
Il est 7h ce 1er janvier 1978. J'ai 10 ans et une fois de plus, j'ai raté la transition, ce passage d'une année à l'autre où, selon ma grande cousine Yossa, la Terre et la Lune se rencontrent et le temps d'une seconde, l'on peut voir clairement la dame Pilanduri avec son bébé attaché au dos. Je suis dépitée. Cela fait 4 ans que je rate le rendez-vous. Je me souviens m'être frotté les yeux pour ne pas m'endormir. Hélas, j'ai dû m'assoupir quelques minutes avant minuit, comme me le fera comprendre Yossa une fois de plus. C'est pareil chaque année, vivement que je grandisse, et je ne m'endormirai plus. Enfin, je serai témoin de la transition. Aujourd'hui, j'ai 51 ans, et je regarde encore souvent la Lune. Je sais qu'il s'agit d'une lubie sortie de l'imagination de ma cousine, que la dame dans la Lune n'est qu'un reflet des crevasses lunaires, que le jour où la Lune et le Soleil se rencontreront marquera la fin. Mais je vise la Lune pour décrocher mon âme d'enfant.
La Lune pour décrocher son âme d'enfant. Je ne sais plus qui d'entre vous le disait, mais c'est vrai que l'intérêt pour la Lune est à la fois universel et il nous renvoie à notre enfance. On a quand même tous été au moins une fois, je l'espère, fascinés par la Lune, par ce spectacle-là.
Ouais, c'est la première, c'est peut-être le premier souvenir astronomique qu'on a tous. Hein. Moi, je me rappelle, David un jour m'a dit ah, ma fille vient de me montrer la Lune alors qu'elle avait 3 ou 4 ans. Et c'est exactement ça. Je pense que ça marque, le premier souvenir astronomique. Et ça, depuis des millénaires, finalement. Parce que entre effectivement la voûte étoilée et la Lune, c'est quelque chose qui marque une vie.
Et puis, il y a beaucoup de légendes. Alors, légendes propres probablement au continent africain. Il y a des légendes partout autour de la Lune. Ça va revenir hein, régulièrement, et ça revient régulièrement dans les textes, cette femme qui porte son bébé dans le dos. Ça vous inspire quoi, ces légendes, David?
C'est des belles histoires, c'est des choses que je ne connaissais pas, en fait. Donc ça a été vraiment très, très, très amusant et très émouvant de découvrir ces légendes et ces histoires autour de la Lune. Les paysages lunaires, ce que les gens voient un peu comme quand on regarde des nuages, on peut avoir l'imagination et voir des formes là pour la Lune aussi. On trouve ces paysages.
Sylvain,
C'est des histoires millénaires en fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, avant l'invention de la lunette astronomique, la Lune n'est finalement ce disque lumineux dans le ciel. Et ces histoires sont issus finalement de notre œil. Après l'invention de la lunette astronomique, finalement, le moment où on a commencé à regarder la surface, à la décrire, à voir les cratères, les mers lunaires, ben finalement, il y a d'autres histoires qui sont apparues. Parce que jusqu'à il y a 50 ans, on ne savait pas ce que c'était la surface lunaire. Encore au milieu du XXe siècle, on était encore avec des volcans qui recouvraient toute la surface, ou encore à la fin du XIXe, avec des forêts de séquoia dans les mers lunaires. Donc il y a de nombreuses histoires qui sont issues finalement
de notre imaginaire.
De nos observations et la science en fait aujourd'hui effectivement notamment avec les missions Apollo d'il y a 5 ans ont permis d'apporter des réponses. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, notre imaginaire nous raconte des belles histoires.
Mais ces textes et ces histoires pour moi ils remontent aussi à la source de l'astronomie parce que finalement c'est l'observation et chercher à comprendre. Et dans ces textes, on retrouve dans des démarches que ces personnes qui témoignent, la démarche scientifique aussi, de chercher à comprendre, l'origine de l'astronomie. L'homme, dès l'enfance, qui regarde la Lune, qui s'interroge, qui cherche à savoir de quoi elle est faite.
Lune de miel, hein, ça revient aussi pas mal dans nos textes. En même temps, la Lune aujourd'hui, on peut la contempler de partout, mais ce ciel étoilé, il est de moins en moins visible de par le monde, à cause de notre pollution lumineuse. Alors c'est vrai que ce concours, il était ouvert au continent africain, à la Caraïbe, à l'océan Indien, on a aussi beaucoup de textes d'Haïti, de Madagascar, des lieux qui souffrent souvent de manque d'électricité, mais qui du coup ont au moins la chance de pouvoir observer la Lune et le ciel, Sylvain.
C'est vrai, effectivement, là où il y a des beaux cieux, on peut effectivement facilement observer le ciel. Par contre, souvent, il n'y a pas d'observatoire pour aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, là où il y a de la lumière, il y a des observatoires. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'observatoire. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, il faut travailler en ce sens-là, essayer de rendre accessibles les étoiles à tous et construire un observatoire dans chaque pays, en fait, dans le monde.
Ce sont aussi des réserves de ciel étoilé hein, qui se construisent à travers le monde, notamment sur le continent africain. Alors justement, parmi les textes des lauréats, hein, puisque chaque lauréat va vont recevoir aussi un livre sur la Lune. Parmi les textes qu'on a reçus et qui nous ont particulièrement touchés, il y a celui de Franz Jean depuis Haïti. C'est un peu notre lauréat de cœur. David Baratou, est-ce que vous voulez nous le lire ?
Avec plaisir. La Lune, mon seul espoir dans les sombres nuits. La Lune est mon rendez-vous nocturne par excellence. Je prends l'habitude de sortir tard le soir la regarder. Je me suis toujours dit qu'elle brille plus dans mon pays que nulle part ailleurs. Peut-être s'agit-il juste d'une impression due au fait que l'électricité est une denrée rare par ici. La Lune est devenue mon amie. Sortir la contempler fait partie de mon rituel. Est-ce pourquoi j'ai pris peur en ne la voyant pas un soir? Pourtant, elle était là, cachée derrière d'épais nuages, parce qu'on était en pleine saison cyclonique. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle nous avait abandonnés, loin de la blâmer, j'aurais compris qu'elle soit aussi découragée comme la majorité d'entre nous. La Lune me rappelle de toujours marcher la tête haute, les yeux rivés vers la lumière. Elle guide mes pas dans les sentiers rocailleux, dans nos routes parfois mal entretenues. La Lune est pour moi un idéal, moins utopique que la promesse des dirigeants de mon pays de rendre l'électricité disponible 24 heures et 7 jours sur 7 pour les 12 millions d'habitants que nous sommes dans ce coin d'île. Elle est celle qui me permet d'avancer. La nuit porte conseil, dit-on. Moi, c'est la Lune, ma conseillère. Rester fidèle à moi-même, briller malgré les intempéries sont ceux que je vise. Comme elle, j'ai mes hauts et mes bas. Je ne suis pas toujours en pleine forme. Des fois, je ne peux fournir que des quartiers de mon potentiel. Mais cela n'en diminue pas moins ma valeur. Comme elle, je fais face à des obstacles, mais je tiens bon. Comme elle, j'ai des yeux fixés sur moi. J'ai une lumière à diffuser. Comme elle, je sais que d'autres brilleront toujours, mais qu'en aucun cas, ils ne sauraient me remplacer.
Franz Jean, merci hein, depuis Haïti pour ce magnifique texte qui permet, pour le coup, à travers la lune, de dire plein de choses aussi, de dire comment on survit aux difficultés d'existence, aux difficultés économiques, aux difficultés de ne pas avoir d'électricité, voire aux conflits. Hein. On a aussi pas mal de textes en ce sens qui viennent de RDC, d'Haïti également, de Madagascar, d'autres pays. La lune, ça peut aussi être un prétexte pour dire plein de choses et pour dire qu'on reste droit et qu'on regarde la lune.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est finalement quelque chose qui est toujours là, quoi qu'on fasse, elle est là et on a envie de s'y rattacher et de voilà de la contempler. Et c'est vrai que quoi qu'il se passe, eh bien finalement, on peut voilà se retrouver dans l'observation du ciel étoilé en général, mais la lune, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout simplement marquant. On peut comme on l'a dit, hein, projeter son imagination et puis se réconforter auprès de sa lumière.
Mais c'est vrai que ce qui frappe dans tous ces témoignages qui sont quand même issus de milieux urbains,
oui,
c'est
David.
Ce lien avec la lune qui est beaucoup plus fort que dans nos villes ou même si on regarde le ciel parfois entre les immeubles, entre l'électricité, on ne la voit plus. Alors que là, on a l'impression effectivement dans toutes ces villes, les gens prennent le temps de lever les yeux au ciel et de voir la lune.
Ils n'ont pas oublié la lune.
Ils n'ont pas oublié la lune.
En ce cinquantenaire, de cette année cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la lune. Alors, on a même reçu un poème d'ailleurs en langue hébraïque, je le signale, parce que je crois que c'est assez riche pour être signalé. Il y a aussi évidemment tout le questionnement scientifique sur la lune. Et puis je pense aussi à un texte qui m'a touchée. C'est Mam Balanyang, Mbour, au Sénégal, qui nous l'a envoyé, je vous propose de l'écouter. Je prends sa voix. Toujours fascinée par cette boule blanche au-dessus de nos têtes, les soirs de pleine lune, j'aime observer de la terrasse de notre maison le quartier enveloppé par cette douce et belle lumière. Levant la tête, j'observe cette lune qui nous gratifie de cette vision apaisante et mon imagination m'amène en solitaire sur cette sphère dont les taches m'intriguent. Et l'envie de l'observer et de le faire observer de plus près devient de plus en plus une obsession. Dans le centre Guélewar que je viens de créer avec des amis, nous organisons avec le concours de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie une conférence annuelle sur l'astronomie, suivie d'une observation du ciel en direction des élèves et des habitants de notre zone. En 2020, une nuit blanche sera dédiée à l'astronomie. On souhaite le meilleur, hein, David Baratou, au centre Guélewar et à l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. On en profite pour saluer l'astrophysicien Maram Kéré, hein, formidable promoteur de l'astronomie au Sénégal. Il y a au Sénégal des festivals, hein, il y a eu Saint-Louis sous les étoiles, il y en a à Dakar aussi. Vous-même, vous avez longtemps séjourné. Au Sénégal, on est en bonne place pour observer le ciel.
Il se passe beaucoup de choses au Sénégal en ce moment, sur l'astronomie. Beaucoup de choses grâce à Maram Kéré, mais grâce aussi à des étudiants maintenant qui sont autour de lui. On a eu bien sûr cette mission de la NASA en août dernier, qui a préparé le survol d'Ultima Thule, l'objet le plus lointain jamais exploré par une mission spatiale.
Et ça s'est fait au Sénégal.
Ça s'est fait au Sénégal et ça a été un modèle de ce qu'ont ressenti les Sénégalais. Ça a été un modèle de collaboration scientifique internationale entre Français,
NASA,
entre Sénégalais, entre Américains.
Ils
sont tous associés à la publication scientifique. Il y a quelque chose vraiment qui s'est noué là de très fort entre tous ces partenaires de cette opération. Et puis plus récemment, j'ai envie aussi de souligner, là on a trois étudiants dans le cadre d'une association, des jeunes géologues et environnementalistes du Sénégal, qui ont monté des opérations tout seuls dans des lycées pour parler des sciences de l'espace et de la Terre. Ils ont obtenu un financement de l'AGU, l'American Geophysical Union, de l'IRD, et tout ça c'est de la motivation qui moi me touche énormément. On n'est pas derrière, c'est leurs idées, et c'est quelque chose là récemment qui s'est passé en Casamance, à Thiès, non pas seulement à Dakar en plus, dans des villes en dehors de la capitale.
Pour diffuser les connaissances,
voilà.
Pour parler de la science.
Avec
moi
passion.
J'ai envie de faire un petit coup de chapeau à Salma Silla, qui est l'astrophysicienne sénégalaise,
et parmi eux, ouais.
Et elle était parmi eux et qui observe en ce moment, qui est partie au Maroc, hein, faire ses observations de Jupiter, et qui maintenant va travailler aussi à Toulouse, je crois. Donc,
alors, elle est bientôt en France à Paris.
Elle est bientôt en France à Paris.
Entre Paris et Toulouse, oui.
Donc il y a vraiment une relève, une première génération de d'astrophysiciens, d'astronomes au Sénégal. Comment encourager justement l'astronomie, alors à la fois pour les jeunes chercheurs, pour les étudiants, mais aussi pour les amateurs? C'est un vrai enjeu au Sud et sur tous les continents, Sylvain Boulet.
C'est un véritable enjeu parce que finalement, voilà, l'astronomie, il faut qu'elle, cette science, la communication, il faut qu'elle commence très tôt, et on a le rôle de ces associations, de toutes ces manifestations pour le grand public a un rôle fondamental, parce que on l'a vu, c'est ce qui va donner envie de faire de l'astronomie, de lever les yeux au ciel, de rêver et de tout simplement de vouloir après apprendre, pouvoir se former à l'université et pour ensuite, bah, comme Salma, pouvoir éventuellement en faire son métier. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et voilà, l'astronomie dans l'éducation dès le plus jeune âge, à l'école primaire, les collèges, les lycées, c'est vraiment quelque chose qu'il faut.
Et vous avez l'impression que ça bouge, ça évolue, alors que ce soit dans nos pays, en France, aux États-Unis, on va y venir, hein, ce On the Moon Again qui vraiment est une opération internationale. Vous avez l'impression que ça bouge au Sud, sur le continent africain, en Amérique du Sud. Est-ce que ça bouge?
Oui, je pense que ça bouge énormément. On vit une période fantastique pour ça. C'est-à-dire que on l'a vu les 50 dernières années en général, depuis finalement les missions Apollo, on voit l'astronomie se disséminer un petit peu à travers les continents. On voit effectivement des opérations naître un petit peu partout, des télescopes apparaître aussi qui permettent de donner accès à ces étoiles. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement encourageant, et on a envie évidemment d'aider dans ce sens-là, de pouvoir effectivement créer de nouvelles écoles. Il y a eu un magnifique workshop en Éthiopie il n'y a pas si longtemps que ça aussi, pour faire un point de l'astronomie en Afrique. Donc il y a énormément de choses à faire, et comme je vous l'ai dit, vraiment un seul but, c'est voilà, tous derrière les étoiles et des observatoires partout dans le monde.
Je crois que ces initiatives qui naissent un peu partout donnent envie à nos amis africains de ne plus se censurer pour démarrer des projets. Ils se sentent moins isolés. Ils voient qu'il y a des pays comme l'Éthiopie qui ont maintenant leur observatoire, le Maroc. Pourquoi pas moi aussi? Et donc, ils y vont. Et ils montent les projets. Et certains vont aboutir.
Autour de la question pourquoi viser la Lune, nous qui sommes des poussières d'étoiles et des fils et des filles de la Lune, vous voyez où je veux en venir, Sylvain Boulet. Hijo de la Luna, c'est le groupe Mécano que vous avez choisi d'entendre sur RFI. A la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien sufre inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna, yeah. Luna, le groupe Mécano sur RFI, joli choix. Sylvain Boulet, vous nous en dites un peu plus sur ces paroles, parce qu'on a choisi la version espagnole originale.
Je vais pas raconter toute l'histoire, mais je trouve cette chanson très touchante et elle revient un petit peu sur toutes ces histoires qu'on a racontées depuis le début. C'est notamment l'histoire d'un enfant qui grandit avec la lune et finalement son caractère, ses sentiments vont dépendre de la phase de la lune. Alors quand la lune est pleine, il va être heureux. Quand il va être triste, la lune va être en croissant. Il va s'en servir comme berceau. Voilà, c'est un peu ce que raconte cette chanson et voilà, c'est une belle chanson avec un beau texte
et une belle illustration autour de la question pourquoi viser la lune et comment partager justement tous les trésors que vous nous avez envoyés, chers amis auditeurs, auditrices et internautes qui avaient participé à notre jeu concours. Bon, c'est totalement impossible de tous les lire ici. Nous allons continuer un peu au cours de cette année lunaire à partager quelques-uns des textes les plus inspirants que nous avons reçus, comme par exemple celui de Serge Ebeza au Gabon, passionné d'astronomie, très investi dans la diffusion de l'astronomie pour tous les Gabonais dans toutes les provinces. Voici ce que Serge Ebeza nous a écrit.
L'un des plus beaux souvenirs de la Lune que j'ai, c'était lors d'un voyage vers Mayumba dans le sud du Gabon. Nous nous fîmes arrêter par la gendarmerie pour un contrôle de routine. Pendant le contrôle, je fis remarquer aux gendarmes qu'ils avaient un beau ciel avec plusieurs planètes visibles. Ils paraissaient sceptiques. Alors je fis sortir mon télescope et leur fis observer la Lune puis la planète Jupiter. Ils étaient conquis. Ils ont pu observer les cratères de la Lune. Et leur perception de celle-ci a changé du tout au tout. Je me rappelle l'un d'eux me demandant « Mais où est la femme que l'on dit être sur la Lune ?» Je lui ai dit qu'il n'y a pas de femme sur la Lune et que l'apparente forme de femme est due au relief lunaire. Les gendarmes étaient conquis. Nous passâmes une heure à échanger sur les légendes de Fougamou.
Comme quoi, observer la Lune et parler des légendes de Fougamou, ça peut arranger beaucoup de nos affaires, notamment avec les gendarmes. Petite réaction à ce texte qui faisait partie de la sélection de tout le jury, je dois dire. Ça a été dur de choisir, mais une petite réaction sur ce texte.
Ouais, c'est un texte qui est super parce qu'il montre que la Lune peut rapprocher des personnes, tout simplement. C'est ça moi, que ce texte m'inspire. C'est au-delà des circonstances, là, la Lune, voilà, elle peut jouer parfois un rôle de réconciliation.
Et de réconciliation, moi j'ai envie de dire aussi, on passe allègrement de l'imaginaire, des légendes, à l'astronomie la plus pointue, ça ne dérange pas. En fait, c'est quand même un domaine où on peut tenir tous les bouts de notre chaîne humaine, c'est-à-dire le savoir le plus pointu, et puis l'imaginaire le plus imaginaire et le plus poétique possible.
Je pense qu'on a commencé par ça, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à décrire les formes qu'on observait sur la Lune, c'est cette démarche scientifique. Après, on y met ce qu'il veut. Moi, j'ai le souvenir de, effectivement, Camille Flammarion, à la fin du 19e siècle, quand il était tout gamin, il allait sur les collines observer la Lune et puis il voyait ses taches sombres avec une demi-jumelle qu'un de ses copains lui avait envoyée. Et il allait voir son instituteur qui lui disait « Ah bah, les taches sombres, ce sont tout simplement l'ombre des montagnes projetées. » Alors évidemment, ça faisait des sacrées montagnes pour avec une sacrée ombre. Et lui, n'y croyait pas. Et c'est quelque chose qui l'a motivé après pour comprendre ce qu'étaient vraiment ces mers lunaires. Et voilà un petit peu finalement, lui a commencé à décrire, à observer finalement ce qu'il voyait. Et puis finalement, il se trompait complètement. Mais avec son savoir, donc la science était là. Finalement, c'est l'un des premiers planétologues, l'ami Flammarion. Et c'est pas parce qu'il racontait pas la vérité finalement qu'il était loin de cette vérité.
Ouais, mais c'était l'aiguillon de
Exactement.
Sa curiosité.
Et l'imagination, la description, finalement, c'est le début de la science. C'est-à-dire que il faut passer par là pour enfin arriver à savoir la vérité ou en tout cas à s'en rapprocher.
C'est aussi pour ça que vous avez, avec d'autres astronomes, d'autres astrophysiciens à travers le monde, et pas des moindres, lancé cette opération internationale On the Moon Again. Le lien est bien sûr sur notre page. En gros, vous invitez tous les possesseurs de lunettes astronomiques et de télescopes à partager partout, sur tous les continents, en cette année cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Ce sera dans la nuit du 12 au 13 juillet. L'observation l'observation de la Lune, c'est-à-dire de sortir son télescope ou sa lunette dans la rue.
Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est très simple, finalement, parce qu'il existe des centaines de milliers de télescopes à travers le monde. Si toutes les personnes qui ont un télescope dans leur grenier ou n'importe où, dans leur cave, sortent leur télescope ce jour-là, ça va faire une manifestation incroyable. David l'a dit tout à l'heure, il faut se rapprocher, ça permet de rapprocher des gens qui ne parleraient pas normalement. Et effectivement, On the Moon Again, c'est ça, c'est très simple. Vous avez un télescope, vous le sortez dans la rue et vous attendez que les passants viennent observer. L'idée, elle vient d'une opération notamment qu'on réalise depuis quelques temps sur les quais de Seine à Paris, où finalement on s'est rendu compte que c'était très simple de parler lune avec les passants. La majorité des gens nous regardent un peu bizarrement dans un premier temps, en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cet instrument ? Il tourne autour et puis d'un coup, ils viennent, ils commencent à mettre leur œil à l'oculaire et là c'est un autre monde qui apparaît.
C'est-à-dire qu'ils ça fascine tout le monde quand on a vu la lune de près.
Exactement. Et cinq minutes avant, ils ne s'imaginaient même pas que c'était possible d'observer la lune. C'est voilà, vous êtes en train de vous balader à Paris et là d'un coup, vous êtes en orbite lunaire. Et c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que si vous voulez donner du plaisir aux gens, c'est très simple, offrez-leur la lune. Et avec cette opération,
carrément.
Exactement. C'est ça, c'est très simple. Et vraiment, voilà, si parmi vos auditeurs, vous avez un télescope, une petite lunette astronomique ou même une paire de jumelles, sortez les 12 et 13 juillet et partagez la Lune. Vous allez voir, vous allez être conquis.
Partagez la Lune. Vous avez déjà, il y a déjà énormément d'événements. Je crois qu'il y a plus de 50 pays qui participent.
Tout à fait.
Plus de 400 événements.
Tout à fait, voilà, c'est ça. 400 événements dans 52 pays pour le moment. Et puis le nombre augmente de plus en plus. Donc on attend évidemment un grand nombre d'événements qui va grossir exponentiellement jusqu'au 12 et 13 juillet. Donc voilà, faisons la fête à la Lune et ça sera bien.
Faisons la fête à la Lune. Et là encore, alors, c'est pas, nous sommes partenaires. Vous avez lu tous nos textes. Vous avez aussi, vous, reçu des petites vidéos, des choses aussi assez touchantes.
Oui, c'est ça. C'est que, effectivement, l'objectif de On the Moon Again, c'est pareil, c'est de pouvoir rassembler les gens et de pouvoir montrer qu'on ressent les mêmes sentiments, que l'on soit effectivement du Togo, d'anglais, chinois, etc. Et on a reçu un témoignage, une petite vidéo d'une Anglaise de 10 ans, adorable, qui avait voilà, son télescope, son poster de la Lune, son sweatshirt NASA, etc.
Dans sa chambre.
Exactement. Et son message, c'était ça. C'était, moi, le 12 et 13 juillet, je serai dans la rue, en Angleterre. Faites la même chose que nous. Et c'est très simple, effectivement.
Allez, je vais encore vous faire travailler un peu, Sylvain Boulet, parce que j'avais envie de vous demander à vous quel était un des textes qui vous ont le plus touché. Je dis à chaque fois un des, parce que c'est très, très difficile d'en choisir un. Alors, vous avez choisi de nous lire un texte qui nous vient de République du Congo, Brazzaville, et qui est signé Guy Parfait Itumou. Allez-y.
Prisonnière de la Lune. Un soir, quand j'avais 7 ans, grand-mère m'a raconté cette histoire au clair de lune. Il était une fois, la femme que tu vois avec un enfant au dos dans la lune avait osé partir au champ un jour interdit. À l'heure où ni les oiseaux ni les coqs ne chantaient encore, elle porta son enfant, prit son panier contenant des provisions, une machette et une houe, et elle quitta le village sur la pointe des pieds. Elle gagna bientôt la savane. Elle y rencontra une étoile qui lui reprocha d'enfreindre les usages et l'emporta sur la lune. Devenu grand, j'ai appris en bouquinant que ce qui s'aperçoit dans la lune, ce sont des collines. Je l'ai rapporté à ma grand-mère. Elle m'a réprimandé de croire aux mensonges. Je lui ai alors dit qu'un homme a marché sur la lune le 21 juillet 1969 sans y voir la femme prisonnière qui porte un enfant au dos. Elle a crié au scandale. Je regrette de ne pas avoir un télescope pour lui démontrer avant sa mort qu'elle se trompe.
Guy Itumou, allez, si on réorganise un concours, parce qu'on a bien envie de le faire et qu'il y a une autre lunette ou un autre télescope, vous serez parmi nos favoris et vous recevrez bien sûr, en attendant, un livre sur la Lune. Les choix là de nos lectures sont très subjectifs car tous vos textes ou presse sont touchants et remuants. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement touchée, c'est celui d'une jeune Gabonaise que nous n'avons en plus pas du tout réussi à joindre, Aurore Maganga de Port-Gentil. Si jamais vous nous écoutez, signalez-vous par mail, parce que voici ce que vous nous avez écrit. Je m'appelle Aurore, j'ai 14 ans, élève en classe de 3e à Port-Gentil. Je suis fascinée par notre univers, particulièrement par la Lune, dans ces grands jours où la nuit devient comme le jour et nos ombres se dessinent avec précision. Certes, dans mon plus jeune âge, mon souhait était de devenir chirurgienne. Mais un jour, en cours d'espagnol, j'ai été illuminée. Il fallait, en majuscule, inexorablement que je devienne astronome. J'ai alors commencé par le plus simple, observer le corps céleste le plus évident, qui est notre satellite naturel, la Lune. J'ai alors commencé à m'installer chaque soir sur mon balcon pour la contempler, malgré les piqûres de moustiques. À certains moments, je croyais que la Lune se déplaçait bien plus rapidement, alors que c'était juste parce que j'étais restée trop longtemps à la fixée sans cligner des yeux. Les deux plus beaux moments ont été lorsque plusieurs jours durant, la Lune était visible jusqu'à 9h du matin. Ou alors lors d'une pleine lune, où elle luisait fortement et était d'un blanc laiteux comme entourée d'un arc-en-ciel. J'admire les scientifiques qui ont réussi à envoyer Neil Armstrong sur la Lune et rien ne me fera changer d'avis. Ton souhait, Aurore, c'est d'avoir un télescope. Alors pour une prochaine aussi, si tu te signales auprès de nous par mail, en tout cas, bravo pour ta détermination. Qu'est-ce que vous voulez vous faire passer à tous ces auditeurs, internautes qui participent à On the Moon Again, qui nous ont envoyé leurs textes? Qu'est-ce que vous avez envie de susciter? Des vocations, d'éveiller des vocations comme celle de la jeune Aurore à Port-Gentil, et en plus des vocations féminines, hein, ça serait bien.
Ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de ces textes, tout souvent commence par « j'ai levé les yeux au ciel ». C'est la première... Et à partir de là, ils deviennent passionnés, ils voient la Lune, ils sont captivés. Et c'est un petit peu avec l'événement On the Moon Again, ce qu'on a envie de partager. C'est que vous allez mettre peut-être la première fois votre œil dans l'oculaire d'un télescope et vous risquez d'être pris au piège, passionné par cette image de la Lune qui est fabuleuse. C'est ça,
c'est un beau risque, message. En fait, parce voilà, que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ça,
parce
c'est un très beau risque. Hein.
Quand on découvre pour la première fois les paysages lunaires dans un télescope, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui marque profondément, et on le voit au travers de ces témoignages. À partir du moment où ils ont cette démarche, même à l'œil nu, de lever les yeux au ciel, ils sont captivés. Donc
et
c'est
puis,
assez
du coup,
universel.
On est tous ensemble sur cette terre. Enfin, il y a cette notion-là aussi, évidente, même si on le sait bien, hein, l'espace est aussi le lieu de guerre et de conquête. Malgré tout, c'est quand même ce qui peut nous rassembler.
Alors, c'est aussi
tous
l'occasion
sur cette petite planète,
voilà, de célébrer notre humanité commune au travers de ces observations. On est amené à se poser des questions qui nous rassemblent et à oublier un temps toutes nos différences et donc à se parler au-delà de ces différences.
Sylvain ?
Puis c'est vrai qu'on a souvent l'idée que l'astronomie ça peut être scientifique, ça fait peur, etc. Et en fait non, l'astronomie c'est juste effectivement lever les yeux au ciel. On n'a pas besoin d'être un scientifique. On demande pas à tous les gens qui vont venir observer la Lune de comprendre la formation de la Lune, absolument. Ça peut être juste un moment d'observation, comme quand vous vous baladez. Voilà, imaginez-vous, vous êtes en train de vous balader avec un beau paysage, vous vous posez sur un siège et là vous observez la Lune. Et c'est la même chose. C'est juste un moment de contemplation à partager.
Partager justement, allez, un petit dernier pour la route difficile hein, de choisir entre tout. Les trésors que nous avons reçus de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Maroc également, d'Haïti et de Madagascar. Tiens, une des nombreuses perles reçues de Madagascar, signée Erilanja Ratobimanan Kassina. On l'écoute.
Quand on est loin de notre village natal malgache, pour nous, gens de cœur, la Lune nous aide une aide irremplaçable. Nous lui parlons et elle va transporter nos messages d'amour et de chagrin grâce à son déplacement dans le ciel vers nos amours. Quand la lune illumine nos villages de pêcheurs sans électricité, les hommes de notre ethnie Betsi Misaraka profitent de la lueur et partent en mer par une petite pirogue le long de la côte est. Au clair de la lune, leurs femmes et enfants les attendent sur le bord avec impatience mais la joie au cœur. Nos grands-parents nous promettaient autrefois que, si l'on était sage, nous verrions l'image d'un vieil homme qui s'assoit, en train de jouer du valia, sur la lune. Nous la contemplons depuis lors, en espérant un jour entendre sa mélodie.
Au son du Walia malgache, on vous promet et on vous offre la lune sur RFI. Peut-être un petit mot sur cette lunette que vous nous avez apportée, David Baratou, et que va bientôt recevoir Christian Gbaba, notre lauréat, étudiant en géologie de 23 ans à Lomé, au Togo. C'est Sébastien Vauclair, autre membre du jury, qui l'a choisi pour nous. Elle va permettre d'observer la lune. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette lunette qui est emballée dans un grand carton dans notre bureau avant de partir pour le Togo?
Donc c'est une lunette de 70 cm. Donc c'est un instrument qui est facilement transportable. Ça sera facile de le mettre dans la rue, justement, pour un home again. C'est un instrument pour partager avec ses amis, avec sa famille. Et c'est un instrument qui déjà permet de débuter en astronomie et de se faire familiariser avec la Lune, avec les planètes, avec même le ciel profond.
Ah, même avec, le ciel profond, ça peut aller jusque-là. C'est quand même une bonne lunette pour démarrer.
Ce n'est pas un jouet, hein, c'est un véritable instrument pour l'astronomie amateur. Et c'est quelque chose qui... j'en doute pas une seconde, permettra de faire de belles observations sous les ciels africains.
Et vous serez où, David Baratou, pour dans cette nuit du 12 au 13 juillet, où on rappelle qu'on invite tous nos auditeurs possesseurs de télescopes ou de lunettes à sortir dans la rue et à faire partager, à mettre l'œil de tous les passants dans l'œil du télescope.
Alors moi, il se trouve que ça tombe à une période où je suis à une conférence sur justement les cratères d'impact météoritique et des météorites qui est au Japon. À Sapporo, sur l'île d'Hokkaido. Et donc, je serai à Sapporo pour vivre cet événement avec, je l'espère, des amis japonais qui possèdent des télescopes et des lunettes et qu'on pourra vivre cet événement ensemble.
Et vous allez les sortir dans la rue. Donc, on sait déjà qu'il y aura un événement au Japon. Il y en aura bien sûr en France. Il y en aura sur le continent africain. En tout cas, ça, c'est sûr, à Lomé, au Togo. Sylvain, vous serez où ?
Moi, je serai sur les quais de Seine, là où finalement Paris. L'opération a commencé. Voilà, c'est juste, effectivement, là où il y aura plein de monde en train de se balader, simplement. Et j'aime bien ce concept de se dire que les gens qui vont participer à l'opération ne le savent pas encore aujourd'hui. Ils vont être surpris. Et voilà, ils seront en pleine balade, ils vont voir un télescope et finalement, ils vont participer.
Donc, et ça va arriver sur toute la Terre en même
exactement.
Temps.
Exactement.
Parce que 12 au 13, c'est pour que ce soit la nuit à un moment donné.
Exactement, c'est pour ça que j'insiste aussi sur si les gens veulent participer, qui viennent s'inscrire sur le site onthemoonagain.org parce que l'idée c'est de pouvoir former un grand groupe, montrer qu'on est nombreux. Il va y avoir aussi également un beau concours avec un concours de photos pour montrer un petit peu justement l'ambiance, la relation entre l'humain et la Lune, avec des météorites lunaires, des télescopes à gagner. Donc venez nombreux participer, sortez votre instrument.
Allez, pour conclure, j'ai envie de citer Fatima Lariche. Elle est élève ingénieure marocaine, elle a 20 ans, elle s'inspire d'Oscar Wilde. Visez la Lune, et même si vous n'y arrivez pas, vous atteindrez les étoiles. Merci infiniment à tous les deux. Merci David Baratou, merci Sylvain Boulet d'être venu en direct.
Merci.
Un grand merci à tous les autres membres du jury de Visez la Lune, l'astrophysicien Jean-Philippe Usan, l'astronome Sébastien Vauclair, gérant la société Dark Sky Lab qui nous a fourni la lunette offerte par RFI comme premier prix. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, que les 10 lauréats suivants recevront de très beaux ouvrages sur la Lune. Il nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 juillet pour On the Moon Again, observer la Lune ensemble sur tous les continents en cette année résolument lunaire, voire lunatique. On the Moon Again, le lien est sur notre page.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, autour de tous les paradoxes du temps qui passent ou qui ne passent pas, pour de nouvelles expériences temporelles et même extra-temporelles à partager ensemble, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Un grand merci à Juliette Brault pour la préparation de ce concours astronomique qui nous a d'ailleurs donné envie de vous en proposer d'autres. On y réfléchit et on s'en reparle. Merci aussi à tous nos collègues journalistes à RFI qui ont lu ces textes magnifiques que vous nous avez fait parvenir. Merci de votre interactivité, chers amis auditeurs, auditrices et internautes. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Un grand bravo à tous les participants et n'oubliez pas de garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une minute.